With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table. Binge audio.
Là, on va à Morlaix.
Oui.
Morlaix.
Oui, on va à Morlaix. On va chez mes parents. C'est un peu la ville principale de tout ce pays, le pays de Morlaix, tout ce coin-là, où il y a donc, moi, toute ma famille vient de... Toute ma famille maternelle vient de ce coin-là, moi. Donc, Roscoff, Morlaix, Saint-Paul-de-Léon, tous ces bleds-là, c'est...
C'est quoi les questions qui restent en suspens là pour l'instant, par
exemple, il en reste pas mal, ouais. Il y a au moins une question, ça se résumerait d'une phrase, c'est que pendant 30 ans j'ai dit que mon arrière-grand-père était collabo, mais est-ce que c'était vrai en fait?
Au vieux pays de mes pères, une série de Thomas Rozek et Quentin Bresson, épisode 1.
Bon, avant de creuser concrètement toutes ces questions, moi j'avais envie aussi d'en savoir un peu plus sur qui était ce fameux Mathieu. Parce que finalement, je me rends compte que je sais très peu de choses. Alors qu'est-ce que je sais ? Je sais qu'il était né en 1894. Je sais aussi qu'il est mort en 1972, qu'il était cultivateur, c'était son métier, qu'avec Marianne, sa femme, ils avaient acheté une boulangerie dans les années 30 pour nourrir leurs très nombreux enfants et leur donner du travail, parce qu'il faut savoir qu'ils ont eu 10 enfants. Je sais aussi qu'il était très croyant, et puis qu'il était sourd. Alors, il n'était pas sourd de naissance, il était devenu sourd. Et comment il est devenu sourd ? Là aussi, il y a plusieurs versions en fonction de qui raconte. Mon grand-père dit qu'il avait pris un coup de sabot dans la tête. En réalité, il semblerait, si on croise un peu toutes les différentes histoires, il semblerait qu'il ait perdu l'audition à cause d'une explosion. Quand il avait 9 ans, il s'est approché un peu trop près d'un explosif dans un champ où on détruisait des cailloux, et ça lui avait crevé les tympans. Il était comment ?
Oh, c'était... On a certainement parlé de sa surdité.
François, un des petits-fils de Mathieu.
C'est un type qui est enfermé sur lui-même. Ouais. Parce qu'il n'a jamais été appareillé, il n'a jamais été... Il n'a jamais eu d'aide, quoi, en fait. Ouais. Donc, il lisait un peu sur les lèvres. Je crois qu'il entendait un tout petit peu. Mais donc, il y avait une aura de mystère autour de lui.
Et il lisait beaucoup, tu disais ?
Il lisait beaucoup.
Non, c'est pas ça que t'as dit ?
Si.
Ah oui, ouais.
Ah ouais.
Bernard, un des fils de Mathieu.
Ben, il n'entendait pas.
Oui.
Il était donc écarté.
Oui.
Et il a surtout appris à lire avec sa mère. Sa mère qui était une érudite pour l'époque.
Il avait un petit côté un peu froid pour moi, avec ses yeux hyper clairs, là. Ouais. Et puis ça se voyait que c'était un intello, quoi. Donc il avait un petit côté, tu sais.
Catherine, une des petites filles de Mathieu. Et accessoirement ma mère.
Il lisait tout le temps. Ouais. Il lisait tout le temps alors qu'il avait, quand il était vieux, comme il avait du diabète, il avait des problèmes aux yeux. Il avait sa grosse loupe, il y avait toujours des livres ouverts. Ouais. Il lisait tout le temps.
Ouais. Ouais.
Et je me souviens qu'il se mettait au bout de la table.
Marie-Claire, une des belles-filles de Mathieu.
De la grande table au verger, tout au bout de la table. Et il y avait souvent soit ton grand-père, Jean,
ouais,
soit Albert, qui se mettait toujours près de lui.
D'accord.
Pour lui répéter.
Ils
avaient beaucoup de patience avec lui.
Ouais, ouais.
Plus que certains.
Comment il était ? Tu te souviens de lui comment ?
Physiquement ?
Ouais.
Un petit trapu.
Un petit costaud ?
Hop ! On flottait dans ses vestes.
Ah ouais?
Un trion.
Mais balèze, quoi, ah, musclé, ouais, quoi.
Ouais. Un trion. Ouais. Et fort comme un turc.
Ah ouais? Il avait les yeux très bleus, non?
Comment?
Il avait les yeux très très bleus, je crois.
Oh, très bleus. Ouais. Très bleus. Ouais. Rien à voir.
Il avait un regard qui reflétait vraiment ses états d'esprit, quoi. Il n'avait pas beaucoup besoin de parler, en fait. Ben, quand il regardait quelqu'un pour le jauger, évidemment, ça pouvait être impressionnant. Maintenant, c'était quelqu'un qui était, je pense, bienveillant. Maintenant, mais c'est le regard d'un petit-fils de 11 ans sur son grand-père. Donc, c'est pas non plus... Si, c'est un... C'est, moi, il me donnait une sensation de chaleur, quoi. De vraie chaleur humaine, quoi. Alors, on était fascinés parce qu'il chiquait. Et que sa chic, il la mettait
dans sa casquette,
dans son béret et dans le rebord du béret, quoi. Ce qui fait qu'en fait, il avait toujours une trace un peu jaune, quoi, dans ses cheveux. Et c'était la chic, quoi. Mais pourtant, c'était un homme très propre, quoi. Mais ouais, ça, ouais. C'était le truc, quoi. Et donc il y avait ça. Et puis le fait qu'il était complètement renfermé. Et en plus, il était rebouteux.
Ouais.
Donc il avait un don pour faire passer certaines maladies, il soignait les animaux, ce qui fait qu'en fait, il y avait tout ça, ça participait au mystère autour de lui.
Il y avait un côté un peu sorcier, ma mère disait.
Voilà, c'est ça, un peu sorcier, et les belles filles étaient terrorisées, quoi.
Alors, il avait un côté mystique.
Ouais.
Tu vois, quand tu arrivais, tu voyais ce grand... Il était grand, enfin... Il était grand. Pour l'époque, et puis bon, maintenant, non, il était petit.
En fait. Oui, en fait, il était pas 60, très
oui,
voilà.
Ouais,
il était petit. Oui, en
oui,
fait,
oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, donc, lui, il t'intimidait quand tu arrivais, ouais. Un petit peu, quoi. Puis tu savais pas comment l'aborder, comment dialoguer avec lui.
Ouais.
Et puis, alors, il avait des dons de guérisseur. Alors, si tu arrivais que tu avais un petit peu un rhume, mal un peu la gorge, il te disait rien. La première fois, moi, il m'avait rien dit. Il passe derrière, je le sentais derrière moi. Je me disais, oh, qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que je fais? Et là, tout d'un coup, il enroule une mèche de mes cheveux, et puis, paf, il tire dessus. Oh, je vais crier. J'ai plus peur. Et ben, écoute, après, j'avais plus mal à la gorge.
Il avait dans les doigts quelque chose qu'on n'a pas. Comme s'il avait eu un fluide. Il soignait les animaux par les mains.
Oui, parce qu'il avait un espèce de statut de vétérinaire, mais pas officiel, quoi.
Ah, rien d'officiel, ouais. Il était guérisseur.
Oui, c'est ça, ouais.
Et il connaissait une vache par cœur.
Ouais.
Il en a sauvé tout plein. Hein.
Ouais.
Même de l'abattoir, des fois.
Ouais.
Il les achetait parce que lui, il sentait quand est-ce qu'il y avait un veau dans le ventre de de la vache. Je ne sais pas comment il faisait. Et il disait, hop, il disait aux bouchers, vont passer là. Dans 2 mois, on va avoir un petit veau.
Ah ouais.
Et à l'époque, un petit veau, disons,
ouais.
C'était du pognon. Hein.
Ah ouais. Et ta maman, Marianne, c'était quel type de femme? Quel genre de femme?
Oh, une petite femme.
Ouais.
Qui devait peser 45 kilos.
Ouais, une petite toute menue. Ouais.
Ah ouais. Mais qui était... Oh, qui était pas... C'était pas dimanche tous les jours avec elle. Hein.
Tu fais le signe, tu tournes la main.
Ah oui.
Elle serrait la vis.
Oh, il n'y avait pas le choix.
Ouais.
Il n'y avait pas le choix.
Ouais. Ouais.
Et on était 10.
Et c'est pour ça qu'elle a acheté la boulangerie, d'ailleurs.
Elle a acheté la boulangerie. Ben...
Dans les années 30, à peu près. Dans 37, 30. Je crois.
Oui. Ben, ça faisait du boulot pour ses enfants.
Mmh.
Et puis, ça faisait à manger.
Elle a fait venir l'électricité à Roscoff. À l'époque, c'était des entreprises privées. Et donc, elle a fait venir, elle était toujours, elle, tout l'intéressait, toutes les nouveautés. Ouais, c'était une femme, forte, quoi.
Elle
ouais.
avait dû être du caractère.
Elle avait beaucoup de caractère.
Elle avait pris
mais
la...
très douce, elle ouais. était très gentille, ouais. c'était pas une...
Voilà. Oui, oui, c'était pas ouais. une matrone.
Non, pas du tout, non.
C'est qu'elle buvait du champagne.
Ah non, je savais pas.
Ah, tu savais pas?
Mais non.
Alors là, écoute, quand on arrivait là-bas, on avait son petit coup de champagne. Même quand elle était très malade.
Elle buvait du champagne.
Elle buvait rien d'autre que du champagne. Ben ça, ton père, ton grand-père, il s'en souvient.
Ah bon?
Ah oui,
c'est
oui.
rigolo quand même pour des
champagne.
Des gens de cette génération.
Des champagnes.
Moi, j'aurais bien aimé que tu me racontes comment c'était la ferme, parce que j'ai pas trop idée de à quoi ça ressemblait le verger quand vous étiez petit avec tes frères et sœurs et tout.
Les bâtiments et la cour du verger, ça n'a pas changé.
Ouais.
Il y a donc l'étable, les écuries et une grange.
D'accord.
Ça, c'était tout d'un bloc.
Ouais.
Derrière, il y avait un petit appendice qui servait aux cochons.
D'accord.
Dans le côté, il y avait un poulailler. Et puis le grand jardin de l'époque, quoi, hein,
ouais,
qui faisait quand même un hectare, un peu plus d'un hectare, entouré de murs.
Ouais.
Où il y avait 114 ou 115 poiriers.
Ouais.
Et derrière, il y avait un petit endroit où il y avait des poulets.
Et donc ça s'appelait le verger parce qu'il y avait un mur qui était exposé plein sud et sur lequel il y avait des arbres fruitiers qui étaient d'une saveur extraordinaire parce que le soleil se tapant contre le mur réchauffait encore le truc et c'était des poiriers et des pommiers qui étaient là.
Autrement, la maison où tu rentrais, t'avais une entrée, t'avais un très long couloir comme ça, et donc t'avais une énorme, une très très grande cuisine, c'était là qu'ils vivaient, quoi, avec une cheminée. Mais déjà, nous à l'époque, dans la cheminée, il y avait une gazinière, quoi. Et il y avait une fenêtre de chaque côté avec, bah, je t'ai déjà raconté le petit coin.
Ouais.
Il y avait une avancée et donc là il y avait une petite table ronde. Et là mon grand-père, c'était là qu'il lisait avec la table.
Il lisait toute la journée. Ouais.
Autrement, il y avait une très grande table et voilà. Après, donc tu avais un salon, il y avait une salle de bain après qui avait été faite après.
Ouais.
Là, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait avant, quoi.
Ouais.
Il y avait cette grande salle à manger glaciale là au bout du couloir où on n'allait jamais.
Jamais, ouais. Ouais.
Sauf quand il y avait des grandes fêtes de famille.
Au-dessus de ces deux pièces-là, il y avait une grande chambre à l'étage, à une extrémité, la chambre de mon grand-père et la chambre de ma grand-mère à l'autre extrémité. Et entre les deux, il y avait un long couloir avec trois chambres, avec plusieurs couchages, puisque c'était les chambres des enfants, quoi. Et donc, mon grand-père était dans la chambre tout au bout vers l'arrière, et ma grand-mère tout au bout vers la cour. Et en face du lit de mon grand-père, il y avait un crucifix au mur, et quand il quittait la pièce, il touchait toujours le pied du crucifix. Ce qui fait qu'en fait, sur la tapisserie, il y avait de l'usure, quoi, en fait, à l'endroit où il touchait, quoi, voilà. Et du coup, moi, je trouvais ça vachement grand. Je trouvais super grand quand j'avais 10 ans, quoi.
Ouais.
Et en fait, non, il faisait 1m60, quoi. Mais c'était immense, quoi, d'arriver à toucher le crucifix.
Et grand-père Jean, il m'a raconté que son père, du coup, Mathieu, il était aussi très, très croyant, très religieux.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui, ben alors, il aurait pas fallu qu'on loupe la messe de 6h le dimanche. Hein.
Ouais.
Ah ben le voilà, avec Monseigneur du Parc. Avec l'évêque de.
Ça, c'est Mathieu, là.
Oui, c'est grand-père.
D'accord,
ça,
avec Monseigneur du Parc, l'évêque.
L'évêque du Finistère. Alors, c'était le Finistère et le Léon, c'était quoi, le Parc
Je pense qu'il était évêque du Finistère, ouais, du Parc,
oui. Ouais. Et tu sais qu'il quêtait à la messe.
Ouais.
Et il râlait quand les gens n'avaient pas donné beaucoup. D'ailleurs, il marque dans une. Je sais pas, dans ce qu'elle est, il marque que les gens, là, vraiment, ne donnent pas beaucoup, quoi. Il faisait pas de démonstration.
Non, non.
Et nous, on a son chapelet qui est tout rafistolet avec.
Ah oui, tu l'as là ?
Oui.
Tu me montreras après ?
Je sais où il est.
Tu sais où il est ? Ah ouais.
Tu vois la ficelle et des épingles à nourrice.
Ah ouais, c'est lui qui l'avait.
C'est à lui. Oui. Oui, c'est à lui, ça. Ça ne le quittait jamais.
Ouais, il l'avait avec lui tout le temps.
Oui, c'était pas un bijou pour lui.
Non, non, c'était un.
C'était pas pour faire joli, tu vois.
Non, c'était quasiment un. Ouais. Pas un outil de travail, mais. Ouais. C'était un.
Ah oui, mais ça ne le quittait pas. T'as vu ça un peu ?
Ah ouais, c'est rigolo.
Les épingles à nourrice. On l'a laissé en l'état.
Ouais, c'est marrant.
Albert voulait pas qu'on y touche, et puis
je
pense qu'il avait raison.
Ouais, c'est rigolo. Ça fait bizarre d'avoir ça dans les mains.
Oui, de penser que lui, il les a eus.
Ouais, bah ouais, parce que là, nous, ça fait. Moi, ça fait longtemps que j'y pense, mais là, nous, ça fait quelques jours qu'on ne vit un peu que dans la vie de Mathieu. Du coup, on en a beaucoup entendu parler, donc ça me fait quelque chose de l'avoir dans les mains. Ça fait une connexion un peu directe. Parce que moi, je ne l'ai pas connu, forcément. Je suis né 14 ans après sa mort, donc.
Le dernier souvenir que j'ai de mon grand-père, en fait, c'est d'avoir été stupéfait quand on m'a annoncé sa mort. Ben parce que c'était ma grand-mère qui devait mourir, quoi.
Oui, parce qu'elle était très malade.
Parce qu'elle était malade.
Ouais.
Et que d'après ce qu'on me racontait, elle avait refusé l'extrême-onction.
Ah oui.
En disant que toi, toujours cette foi-là chevillée en disant que, de toute façon, elle irait au paradis, parce qu'il n'y avait pas possibilité autrement.
Donc c'est pas la peine.
Et que le bon Dieu ne voulait pas d'une femme en colère dans son paradis. Et que si elle partait avant Matthieu, elle serait en colère. Donc voilà, il fallait pas. Donc du coup, le curé repartait et elle tenait le choc. Et finalement, c'est mon grand-père qui est
mort en janvier 72, le premier.
Voilà. Et c'est là que j'ai appris qu'il était diabétique, ce que je ne savais pas.
Il est resté au verger quand il est décédé.
Oui, il y avait une chambre mortuaire.
Dans sa chambre, ouais. Quoi. Et je me rappelle de voir grand-mère arrivant. Elle était malade, tu sais, mais elle avait demandé qu'on la lève. Et elle était venue près de lui dans le lit. Puis elle lui avait parlé à l'oreille. Oh là là, alors là, c'était... Ouais, on était tous bouleversés. Tous bouleversés. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah, ouais. C'était un couple extraordinaire, quoi, ouais. Je trouve, quoi, tu vois. Ouais. Et délicat l'un envers l'autre, je trouvais, tu vois. Ils avaient une façon... Alors, ils ne se disaient pas des grands mots, ni des grandes phrases.
Oui,
mais de temps en temps, tu entendais grand-père qui disait « Tu m'aimes, chérie ?» Et on entendait une petite voix à l'autre bout de la table. « Oui, mon cœur. » C'était chouette, quoi.
Et vous savez quoi ? En fait, ce jour-là, quand Marianne s'est allongée à côté de Matthieu, moi, je sais ce qu'elle lui a chuchoté à l'oreille. Elle lui a dit
« Merci pour la belle vie que tu m'as donnée. »
Où est-ce qu'on est ? Là, on est au cimetière communal de Roscoe. Bon, là, c'est un peu à l'aventure parce que je ne sais pas où est enterré mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, où ils sont enterrés. Il y a des cabioches ici, il y en a partout. Hein. Tiens, François Cabioche. Jeanne Cabioche. Pierre Cabioche.
Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare ou comment on...
Bah non, on va zoner ensemble. Mathieu Cabioche, Marianne Cardi. Il est là. C'est lui.
Il y a des fleurs.
Camille Cabioche, CIT. Il est là. 7 janvier. Donc ils étaient nés et ils sont morts la même année tous les deux. Tu vois, on voit que c'est une vieille tombe, hein. On a trouvé Matthieu. Il est là. Et là, dans le cimetière de Roscoe, devant la tombe de mon arrière-grand-père que je vois pour la première fois, je peux pas m'empêcher de me dire que, au-delà des beaux souvenirs de ce verger un peu mythique, un peu magique, de cette famille unie, de ce couple très amoureux jusqu'au bout, il reste quand même une zone d'ombre, un secret, quelque chose dont on ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Matthieu, pendant la guerre ?
À suivre.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau, au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.